Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence. Mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années. Et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Katia Nugne est née à Montpellier, mais après avoir obtenu son CAPES de lettres modernes, il y a une quinzaine d'années, elle migre en Franche-Comté pour sa première affectation. Aujourd'hui, Katia habite à Servance, en Haute-Saône, dans la région des Mille Étangs. Et comme de nombreux professeurs titulaires de zone de remplacement, ou TZR, elle est en attente de sa nomination pour cette prochaine rentrée 2022-2023. Elle ne se souvient pas d'avoir rêvé, enfant, d'exercer plus tard un métier particulier. Et c'est pourtant à cette époque, grâce à ses amis d'enfance, son grand-père et le CDI de son collège, que Katia a commencé à se passionner pour la culture, en accédant aux livres, aux bandes dessinées ou encore au cinéma. Son parcours professionnel est très varié, sans doute parce qu'elle a travaillé comme remplaçante pendant les 6 premières années de sa carrière. Lorsqu'elle découvre le potentiel de YouTube pour apprendre toutes sortes de choses, elle a l'idée de créer sa propre chaîne, Bien écrire, pour permettre de s'améliorer en français et mieux comprendre l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe et le style. C'est immédiatement un succès, d'abord auprès de ses élèves, certains d'entre eux ont commencé d'ailleurs à s'intéresser à la matière à partir de ce moment, puis ce succès a grandi jusqu'à rassembler aujourd'hui pas moins de 86 000 abonnés sur YouTube. Katia partage également son travail sur son site bienécrire.com. Vous l'avez compris, c'est aujourd'hui une prof youtubeuse que je reçois. Katia Nugne, bonjour.
Bonjour.
Ma première question est très simple et je la pose désormais à tous mes invités. Est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vouvoie ?
Qu'on se tutoie.
Très bien.
J'ai des facilités avec le tutoiement à chaque fois que je parle à des collègues.
Eh bien, parfait. Et comme le disait mon invité d'hier, c'est vrai que c'est presque une tradition dans l'éducation nationale. Donc, allons-y pour le tutoiement.
C'est ça.
Quel regard portes-tu sur ton enfance, Katia ?
Alors, beaucoup de gens idéalisent leur enfance. Moi, je l'ai pas vraiment. Enfin, j'ai pas idéalisé cette période-là de ma vie. C'était un petit peu compliqué, un petit peu. Mes parents étaient un petit peu renfermés sur eux-mêmes. Donc, on sortait pas le week-end. Pendant les vacances, on faisait rien. Donc, j'ai pas une vision positive. Et je me suis beaucoup réfugiée dans la lecture, dans l'imaginaire, en fait. Je me suis beaucoup ennuyée. Donc, c'est là où tout ce qui est culturel a commencé à m'intéresser. Prof, etc.
Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'élève ?
Ah oui. Alors, mon meilleur souvenir en tant qu'élève. Au lycée, le premier cours de lettres auquel j'ai assisté. En fait, j'étais totalement enthousiasmée. J'ai adoré. C'était vraiment exaltant. Le cours était, enfin, entre guillemets, normal, en fait. Autres élèves étaient pas aussi enthousiasmés. Mais là, c'est là où je me suis dit, mais ça m'intéresse vraiment énormément la littérature. En seconde.
Ouais, c'était en seconde, donc, d'accord.
Et ensuite, en prépa.
D'accord.
J'étais un peu plus âgée. En classe préparatoire, en hippocagne, je me souviendrai toujours de ma prof de français, enfin de lettres.
Ouais.
Elle était absolument formidable. c'était voilà, passionnant.
Prof, etc.
Alors, tu parles de ta classe prépa, donc là, on est plutôt dans l'adolescence. Tu as été quel genre d'adolescente, toi ?
L'adolescente modèle. J'étais bonne élève, j'ai pas fait de crise d'adolescence, enfin je l'ai faite plus tard, on va dire, en adulte, à l'âge, j'ai fait ma crise d'adolescence à l'âge adulte, on va dire. Tout était lisse, tout se passait bien en fait. Voilà, c'est tout.
Prof, etc.
Alors, tu as parlé de tes bons souvenirs d'élèves. D'abord au collège, au lycée plutôt, puis ensuite en classe prépa. En quoi ces périodes de l'enfance, de l'adolescence ont influencé ton choix du métier de professeur que tu exerces aujourd'hui ?
En quoi mon enfance et mon adolescence ont influencé mon métier d'enseignante ?
Oui, c'est ça.
En quoi ça m'a donné envie d'être enseignante ?
Oui, exactement.
Alors, en fait, j'ai toujours aimé expliquer.
Ouais.
J'ai toujours voulu, ça m'a toujours plu d'expliquer à des camarades qui n'avaient pas compris leurs devoirs, de simplifier un petit peu, d'être clair. Enfin, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et j'adorais aussi la lecture parce que j'avais l'impression d'accéder à quelque chose d'intéressant, en fait, à entre guillemets une vérité avec beaucoup de guillemets, mais vraiment à une vision du monde, à quelque chose. Donc j'ai fait le mélange entre les deux. J'aime enseigner et j'aime la littérature, donc c'est comme ça que j'ai eu envie d'être prof de français.
Je le disais dans ton portrait, c'est en utilisant toi-même les plateformes de diffusion de vidéos ou de podcasts que l'idée de partager ton expertise est née. J'imagine qu'il t'a fallu une bonne mise à jour de tes compétences numériques. Alors, quel a été ton cheminement pour arriver à la production et à la diffusion de tes vidéos sur YouTube ?
D'accord. Alors, en termes de compétences numériques, en fait, j'adore apprendre, donc j'apprends beaucoup en ligne, en fait. J'apprends beaucoup sur YouTube ou autre. Donc, ça a été, je me suis formée un petit peu toute seule. Alors, mon parcours d'un point de vue technique, ça a été, j'enregistre des PowerPoint.
Ouais.
J'enregistre mon écran et je parle en voix off derrière.
Ouais.
Et je diffuse ça, donc j'ai diffusé ça sur YouTube, hein, à mes élèves et sur YouTube, etc. Et petit à petit, la technique a évolué. Donc après, là, depuis, ça fait un an que je me filme moi. Je me cache plus derrière un PowerPoint. Au début, je voulais pas me montrer, en fait. Je disais, bon, il faut que ce soit sérieux. Donc, pour être sérieux, on fait un tableau où on marque tout. Et finalement, moi, je suis secondaire. Mais au final, en classe, le prof est pas secondaire, en fait. C'est lui qui crée l'interaction. C'est l'enseignant qui gère, qui est dans la communication. Donc, la communication se fait en se montrant.
Enfin, donc, ouais, je m'étais questionné là-dessus, puisque ta chaîne existe depuis 7 ans, et ce n'est que depuis peu de temps, finalement, que tu apparais dans tes vidéos en chair et en os. Alors, si je comprends bien, c'est un petit peu pour transposer ce qui se passe en classe de manière dématérialisée sur une vidéo, pour ressembler le plus possible à ce qui peut se passer entre un professeur et ses élèves en classe. C'est bien ça ?
Oui, parce que le relationnel est très important en classe, alors il l'est aussi sur YouTube, en fait.
Ouais.
Et pendant le confinement, en fait, l'interaction, ça aurait été important que pendant le confinement, je me montre, en fait.
Ouais.
Et j'ai vu quand je suis revenue, enfin, donc après le confinement, quand on avait les masques en permanence, quand je, par exemple, je donnais des... des dictées à préparer à mes élèves où je me filmais en train de dicter, de donner la dictée. Ouais. Et en fait, les élèves disaient, c'est formidable, on voit votre visage en entier et il n'y a pas le masque. Mmh. Et ça, et en, rien qu'en termes d'interaction, en fait, ils étaient contents de voir leur prof sans masque.
Ouais, ouais.
Et donc l'interaction est importante, mais par contre, ça qui m'a bloquée pendant longtemps, c'est premièrement le fait quand même de se filmer et de mettre ça en ligne. C'est quand même une démarche qu'il faut oser faire. Et puis l'aspect technique est quand même assez conséquent. En fait.
Ouais, parce que là tu rajoutes une couche de travail considérable en mixant à la fois ta vidéo, enfin ton image et puis celle de ton cours toujours en PowerPoint.
Ouais, c'est ça. Ça demande plus de technique. Alors je me fais aider par mon conjoint.
D'accord.
Voilà, et on fait un travail d'équipe.
C'est bien.
Prof, etc.
Alors, il y a énormément de contenu sur ta chaîne. Ça représente combien de vidéos à ce jour ?
630, je dirais.
630.
Alors après, quand je dis 630, il y en a qui font 15 secondes.
Oui, oui.
Il faut bien être clair.
Oui, alors d'autant plus que tu as étendu un peu ton action sur les nouvelles formes de vidéos, les shorts. Et notamment, tu diffuses également des contenus sur TikTok maintenant, n'est-ce pas ?
C'est ça. Alors, je vais t'en parler. Je viens de regarder, c'était 719 vidéos.
D'accord.
Ça inclut tous les shorts, évidemment. Mmh. Et il y en a, et aussi des vidéos qui avant les shorts étaient très courtes. Mmh. Donc je diffuse le même contenu sur TikTok et sur YouTube. Donc j'ai vu que ce format avait un impact en fait.
Ouais.
Et parce que j'ai accès aux statistiques de visionnage. Et quelle que soit la longueur de ma vidéo, en fait, les gens regardent très peu. C'est-à-dire que je vais avoir sur une vidéo de 10 minutes, souvent elle est regardée 3 minutes. Mmh. Donc, par contre, sur une vidéo de 30 secondes, en général, elle est regardée 25 secondes.
Ouais.
Donc, finalement, un format court est regardé, alors qu'un format long n'est regardé que par les gens les plus intéressés.
Ça confirme un peu ce qu'on peut expérimenter en classe aussi. Hein. Si le prof parle trop en classe, il prend le risque d'un décrochage d'une grande partie de son auditoire. Donc, on retrouve finalement les mêmes mécanismes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, comme on dit aujourd'hui.
Oui, comme on dit aujourd'hui, oui. Oui, tout à fait. Ouais. On se rend compte qu'en classe, il faut être synthétique dans ce qu'on dit, sinon on n'est pas compris. Mais Alors, c'est exacerbé sur Internet, bien sûr.
Oui, oui.
En classe, ils font quand même un effort pour écouter les consignes jusqu'au bout.
Prof, etc.
Alors, tes vidéos balayent tout le champ de ce que l'on retrouve dans l'étude de la langue. Comment construis-tu ta ligne éditoriale de la chaîne ?
Alors, la ligne éditoriale, je l'ai faite évoluer, mais... Alors, ce que j'ai fait, c'est au départ, j'ai commencé par faire toutes les vidéos sur lesquelles j'avais l'impression que ça a un intérêt en termes d'explication. C'est-à-dire tous les thèmes sur lesquels je me disais, j'explique plutôt pas mal ce thème. Mmh. Donc, j'ai commencé, j'ai tout fait de façon très chaotique, en fait. J'ai commencé un petit peu n'importe où. Mmh. Sur tout ce qui me venait. Ensuite, j'ai fait une structure grammaire, orthographe, conjugaison avec une numérotation.
Ouais.
Et là, sur les shorts, je repars en chaotique, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je la note. En fait, dès que je me dis « Oh tiens, ça pourrait s'expliquer comme ça », je l'écris. Et j'enregistre mon short. Mmh. Est-ce que c'était ça la question ?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est toujours intéressant de comprendre comment les choses viennent les unes après les autres. Et je comprends bien ta démarche, c'est-à-dire dans un premier temps chercher à apporter une plus-value dans l'explication sur des notions qui nécessitent ça davantage que d'autres. Et puis, petit à petit, structurer ça, je comprends tout à fait la démarche.
Mmh. Prof, etc.
Alors, je le disais aussi tout à l'heure dans ton portrait, ta chaîne rassemble à ce jour un peu plus de 86 000 abonnés. C'est énorme. Et quelle est la nature des rapports que tu entretiens avec cette communauté ?
Alors, je réponds aux commentaires.
Ouais.
Alors pas tous, mais je réponds à un certain nombre de commentaires. On dirait, je like les commentaires.
Ouais.
Voilà. Mais par contre, il faut bien comprendre sur les 86 000 abonnés, il y en a qui se sont abonnés en voyant une vidéo et qui ensuite ne sont pas revenus. Parce que sinon,
ouais,
si les 86 000 abonnés étaient totalement actifs, en fait, j'aurais 86 000 vues par vidéo.
Oui, bien sûr.
Et c'est pas le cas du tout.
Et est-ce qu'il t'arrive que des élèves ou des professeurs, des collègues, par exemple, te demandent de produire tel ou tel contenu?
Alors oui, ça arrive, mais c'est plus souvent des étudiants que des collègues, parce que les collègues, en fait, s'ils ont besoin de faire une classe inversée, ils vont aller chercher une autre vidéo ailleurs, ça ira plus vite que d'attendre 6 mois que ce soit sur ma liste. Ou quand j'ai une proposition, par exemple, est-ce que tu pourrais traiter tel sujet, je le note sur une liste, et puis si j'ai envie de le faire, je le fais, et puis si je suis pas inspirée, je le fais pas. En fait, je me mets aucune obligation sur les thèmes. Même quand je traite un thème en classe et que je me dis ça serait bien que les élèves aient une vidéo là-dessus parce que quand même ce thème est important, si je suis pas inspirée, je le fais pas. En fait, je dis tant pis, ils ont déjà eu un cours. Je me fixe mes thèmes, en fait, j'ai pas de planification réelle, j'ai une liste. Si quelqu'un me dit tiens, il y a tel thème qui m'intéresse, je le marque sur ma liste. Et ensuite je vois. Par contre, j'ai des collègues qui m'ont déjà reconnue, en fait. J'ai des collègues quand je suis arrivée dans des établissements et on me dit « Ah, mais attends, je suis tombée sur des vidéos de toi. » Je cherchais, une fois, j'ai une collègue qui dit « Mais attends, Katia, je cherchais une vidéo sur les natures de mots. » Et puis, je suis tombée sur une vidéo. J'ai l'impression que c'est toi, tu as une chaîne YouTube. Voilà.
Ouais, c'est le début d'une notoriété, hein, c'est certain.
On va peut-être pas aller jusque-là, mais voilà, c'est ça arrive de temps en temps qu'on me dise « Ah oui, je te connais en fait
Tu parles souvent d'apprentissage structuré. Qu'est-ce que tu entends par là?
Ah, t'as bien regardé ma chaîne. Alors en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans, donc j'ai gardé le mot structuré parce que j'ai des vidéos qui se suivent. C'est ce que je te disais au départ. J'ai fait du chaotique, ensuite j'ai fait de l'organisé, et là je refais du chaotique. J'ai repris toute la structure, tout le programme, en fait, de tout ce qu'il y avait à apprendre pour des, on va dire, collégiens. Je fais un petit peu de lycée, mais pas énormément non plus. Et j'ai essayé de structurer pour que ce soit dans l'ordre et que quand on veut tout savoir sur le pronom, on regarde pronom 1, pronom 2, pronom 3, c'est 1 sur 2, enfin 1 sur 12, 2 sur 12, 3 sur 12, et donc on fait le pronom en général, le pronom personnel, le pronom indéfini, et à la fin le bilan sur le pronom. Donc quand je dis structuré, c'est on fait dans l'ordre.
Il y a une progression.
Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est une progression, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des listes de lecture, des playlists, et si on veut des informations sur les temps de l'indicatif, on prend la playlist temps de l'indicatif et on regarde dans l'ordre.
D'accord.
Structuré parce que j'ai beaucoup de playlists. Voilà, c'était pour ça.
Prof, etc.
Alors, en plus de ta chaîne, tu animes également le site bien-écrire.com. Est-ce que tu peux nous parler de la plus-value ou de la complémentarité du site par rapport à la chaîne YouTube?
Alors, ça a un intérêt. Quand on est enseignant et qu'on n'a pas envie de regarder 5 minutes de vidéo pour quelque chose qu'on sait déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le visuel des vidéos et on le fait vite fait, voilà, rapidement. Parce que je vois très bien, me forme pas mal avec des vidéos YouTube. J'adore regarder des vidéos pour apprendre.
Ouais.
Donc, et il y a des fois, ça va trop lentement, en fait. Quand on a déjà des informations sur un sujet, ça va trop lentement. Donc, un enseignant qui regarde ma vidéo pour préparer son cours, en fait, il s'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire à la place? C'est aller sur mon site internet, trouver l'article et regarder le visuel de la vidéo pour regarder vite de quoi ça parle et pour éventuellement, après, l'intégrer dans une classe inversée ou, voilà, savoir de quoi ça parle pour pouvoir l'intégrer après. Mais il n'a pas besoin de rester 5 minutes à regarder une vidéo sur un thème qu'il enseigne depuis 10 ans.
Enfin, d'accord. Voilà.
Prof, etc.
Est-ce que ton activité sur Internet est connue de tes collègues? Et si oui, quel est leur regard, quel est leur retour sur ton travail en dehors de l'établissement?
Oui, ben, en général, ils me disent, mais comment tu fais? J'ai essayé pendant le confinement de faire une vidéo, j'y ai passé la semaine, alors je comprends pas comment tu fais pour en avoir fait autant.
Ouais.
Et en général, j'ai certains collègues qui disent, ah ben tiens, j'aime bien tes vidéos, j'en utilise quelques-unes et je donne le lien aux élèves.
Ouais.
Il y en a qui ne se préoccupent pas spécialement de ça parce qu'ils se disent c'est du numérique et le numérique a quelquefois un peu mauvaise presse donc ils disent YouTube c'est pas un endroit où apprendre voilà. Donc il y en a qui en ont rien à faire, il y en a que ça intéresse, qui trouvent ça bien, en fait.
Tu n'as jamais eu des collègues d'autres matières, par exemple, qui t'ont demandé des conseils pour eux-mêmes se mettre à créer une chaîne ou à créer des contenus sur Internet? Ça t'est jamais arrivé, ça?
À première vue, non. Alors, est-ce que j'ai eu déjà des... Non, alors des collègues d'autres matières qui me demandent des conseils, non. On avait envisagé avec des collègues un projet avec des élèves pour... apprendre aux élèves à faire des capsules eux-mêmes,
ouais.
Parce que forcément la meilleure manière d'apprendre c'est d'expliquer.
Mm-hmm.
Donc on avait envisagé ça et puis finalement l'année d'après j'étais dans un établissement vraiment loin, je pouvais pas vraiment lointain, je pouvais pas faire le trajet pour
collaborer avec tes collègues.
Au départ je m'étais dit je le ferai en parallèle et puis j'avais deux établissements, un coup c'était l'année dernière, un collège, un lycée à une heure de route l'un de l'autre, enfin voilà.
Ouais.
La vie c'est clair. Ouais. Et donc j'avais dit non, ce sera pas possible. Mais sinon non, j'ai pas eu de collègues qui... Enfin si, j'ai des collègues qui me demandent d'un point de vue technique en fait.
Ouais.
Qui me disent tiens, comment tu fais? Juste par curiosité parce que moi j'ai déjà essayé de faire ça.
Ouais, d'accord.
Mais ils me disent, enfin c'est pas dans le but de faire de faire des vidéos eux, je pense pas. Voilà.
Quand est-ce que tu as ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison?
Devant un film comique.
Tu te rappelles duquel? J'ai vu qu'ils reprogrammaient les films avec Pierre Richard là récemment, La Chèvre et Les Compères et autres.
Ouais. Ah, j'adore.
J'avais beaucoup ri à l'époque. Ça date un peu, mais c'est toujours aussi efficace.
Oui. J'aime beaucoup, beaucoup cet humour-là. Totalement. Non, je sais plus. Mais en général, je rigole surtout, devant les films.
Prof, etc.
Est-ce que tu peux me citer un moment préféré de ta journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel?
Oui, alors le moment préféré de ma journée, le repas du soir.
Ouais.
Parce que j'aime bien manger. Et que c'est agréable aussi, je mange avec mon conjoint, on passe un bon moment, on discute et voilà.
Le bilan de cette question, c'est une question que je pose à tous mes invités et j'ai un petit recul maintenant sur cette question. On penche quand même plus pour les moments du matin, Donc, c'est assez rare que les gens préfèrent les moments du soir. Mais tu fais partie de cela, en tout cas.
D'accord.
Prof, etc.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour toi ?
Le partage.
Mmh, ça se comprend.
Pouvoir... voilà. Oui, c'est ma marque de fabrique, oui. Oui, oui.
Et tu l'apprécies d'ailleurs aussi chez les autres, puisque tu l'as dit plusieurs fois pendant notre conversation. Tu utilises aussi Internet pour apprendre toi-même, donc j'imagine que tu es
bien
sensible
sûr,
hein. Au partage des autres également.
Oui, mais c'est formidable Internet. Enfin, ce qu'on peut apprendre à l'époque, où à l'époque il fallait trouver le bon livre, la bonne page du bon livre pour avoir une information sur un sujet. Maintenant, on tape l'information à condition de savoir utiliser les bonnes sources, etc. On a l'information extrêmement rapidement. J'aurais rêvé de ça quand j'étais enfant, en fait.
C'est ce que j'allais dire. Pour toutes les personnes qui ne sont pas nées avec ces technologies, c'est quelque chose de fascinant. Parce que moi, je me rappelle, enfant ou même adolescent, d'avoir eu des questionnements sur lesquels je n'avais pas forcément de réponse. Soit parce que je ne posais pas ces questions aux bonnes personnes, ou parce que... mes parents ne connaissaient pas forcément la réponse. Et donc, c'est quelque chose qui, finalement, aujourd'hui, n'existe plus, puisqu'on peut avoir des réponses sur absolument toute question qu'on peut être amené à se poser. Donc, ça change vraiment complètement le rapport aux choses.
Oui. Et tu, à l'époque, tu cherchais une information. Tu trouvais une demi-page au fin fond d'une encyclopédie.
Exact.
À la bibliothèque.
Ouais.
Tu étais content d'avoir trouvé ta demi-page et tu retrouvais un deuxième livre avec un autre tiers de page et tu disais « Waouh, j'ai un fragment d'information ». Aujourd'hui, tu as 26 sites internet qui parlent de ça et tu peux avoir l'information dans la journée. Enfin,
c'est vrai.
C'est incroyable.
Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est d'être capable de valider l'information parce que... ce qu'on trouve sur Internet n'est pas forcément une vérité absolue, ce qui était moins le cas avec des diffusions plus traditionnelles comme le livre ou des émissions de télé ou de radio. Je me rappelle qu'à l'école élémentaire, il y avait une série de temps en temps d'émissions qui passaient dans le cadre de la... Je crois que ça s'appelait d'ailleurs la télévision scolaire. Et bon, on n'avait pas à se préoccuper de la qualité de l'information.
C'est extrêmement dur pour les jeunes. J'ai l'impression que notre génération encore, on s'en sort pour trouver les bonnes sources. Mais alors, les jeunes ont beaucoup, beaucoup de mal à ne pas croire tout ce qu'ils lisent sur Internet. Le nombre de fois où j'ai entendu un adolescent me dire « Ah ben oui, mais je l'ai vu sur Internet, donc c'est vrai ».
Ouais.
C'est catastrophique.
Ça montre d'ailleurs que l'école a un rôle à jouer là-dedans et que l'éducation aux médias, l'information, c'est quelque chose d'essentiel.
Bah, les professeurs documentalistes travaillent énormément là-dessus et j'ai fait des séances avec des professeurs documentalistes qui ont vraiment les bons outils pour... l'information aux médias, oui, qui ont vraiment ce qu'il faut pour expliquer aux élèves comment on trouve de l'information pertinente.
Prof, etc.
Quelle compétence ou capacité qui te rend bien des services tous les jours dans ta vie te rend un peu fier?
Je m'adapte bien. C'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, je ne sais pas où est-ce que je serai dans une semaine, mais ça ne me pose pas de problème, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire faire... ou pas faire au dernier moment, mais en fait, j'ai pas de programme préétabli de tout, en fait. J'arrive dans une situation et je fais ce qu'il y a à faire, en fait. Je m'adapte au problème en cours, en fait. Je suis pas rigide, voilà.
Mais moi aussi, j'étais longtemps remplaçant et... Tu trouves pas qu'il y a une certaine forme d'excitation à aller vers la surprise comme ça, en attendant un peu le dernier moment pour savoir ce qui va être bientôt notre quotidien? Moi, je trouvais ça vraiment excitant.
Moi aussi, oui, oui. Et J'ai des collègues qui me disent, mais ça va, c'est pas trop dur, parce que au mois de juin, tu sais pas où est-ce que tu seras en septembre.
Ouais.
Je leur dis, non, mais c'est très bien.
Ouais, c'est
tant
vrai.
Mieux.
En plus, nous, dans le premier degré, ça pouvait être un grand écart. C'est-à-dire qu'on peut intervenir aussi bien en petite section de maternelle le lundi matin et en CM2 l'après-midi ou le lendemain. Donc, ça peut parfois donner lieu à des écarts considérables.
Nous, il y a 3 semaines quand même. En général, on met un remplaçant pour 3 semaines, donc on est 3 semaines au même endroit. Mmh. Par contre, oui, ça m'est arrivé d'enseigner en 6e et puis un mois plus tard, d'enseigner en BTS. C'est pas... Enfin, il y a un écart important aussi chez nous.
Oui, c'est vrai.
Prof, etc.
Si tu pouvais te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, tu choisirais qui ?
Oula. En plus, j'ai déjà entendu, j'ai écouté plusieurs de tes audios et puis j'ai rien préparé. Mais alors, quelqu'un me mettre dans la peau de quelqu'un pour une journée.
Ouais, devenir quelqu'un d'autre pour une journée, être à sa place complètement.
Je me pose même pas la question. Pourtant, non, je sais pas. Là, comme ça vient pas.
Ouais. Je sais pas, ce serait plutôt quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un de connu ou un personnage historique.
Ouais, justement, je cherchais dans les personnes connues, personnages historiques. Allez, Jean Gabin, c'est un acteur que j'adore. Et puis, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont toujours très calmes, très placides, on a toujours l'impression que rien ne les remue, rien ne les perturbe.
Ouais. Jean Gabin, très bien.
Et voilà.
Prof, etc.
Comment définis-tu le succès ?
Ah, le succès. Eh ben, ne pas se poser de questions, en fait. Le succès, en fait, c'est comme le bonheur, en fait. Si on se demande si on a réussi, en fait, on n'a pas réussi tant que ça. En fait, je me pose pas cette question-là. C'est-à-dire que finalement, réussir, c'est juste avoir ce qu'on veut au sens large, ne pas qui nous manque pas spécialement quelque chose, mais le succès en tant que tel, qu'est-ce que c'est finalement que réussir dans sa carrière, qu'est-ce que c'est que réussir dans, je sais pas, une chaîne YouTube, finalement on en veut toujours plus, donc si on dit bah tiens je prends tel que c'est, je prends ce qui vient et puis c'est comme ça. Donc non, j'ai pas de définition en fait. J'ai pas.
Ouais, c'est pareil. Certaines personnes mettent toujours un caractère exceptionnel au succès. Or, ça, comme tu le dis, ça peut être aussi quelque chose qui est simplement une réussite ou une possibilité de se réaliser et de réaliser les choses qu'on a prévues.
La réussite, c'est qu'une question de point de vue, c'est-à-dire que dans toute réussite, il va y avoir un échec pour quelqu'un d'autre, en fait. Quelqu'un d'autre va dire, ah ben, là, c'est raté, alors que, subjectivement, toi, tu trouves que c'est bien et t'es content avec ça.
Ouais. Depuis que j'enregistre cette émission, je me dis toujours que le temps passe extrêmement vite et on arrive déjà à la dernière question de notre échange. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les 2 prochaines années ?
De continuer comme je suis maintenant. Moi, la seule chose que je me souhaite et que je souhaite à tout le monde, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, en fait. D'être en cohérence avec ses valeurs, d'être d'être soi-même. Enfin, c'est très cliché, mais tu vois l'idée.
Oui. Bah, écoute, on va te souhaiter tout l'épanouissement du monde pour tes futurs projets. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast.
Ben merci pour ton invitation, c'était très sympathique.
Je mettrai les références de ta chaîne YouTube, bien sûr, et le lien d'accès à ton site en description de cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Et vous pouvez également y laisser un commentaire. Si vous aussi, vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À très bientôt.